Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. C'est donc Amnesty International Évreux qui vous retrouve pour une heure d'émission sur les droits humains. Comme le dernier mardi de chaque mois, depuis plus de 4 ans, j'ai contrôlé, on a démarré en 2010. À chaque fois, on se demande, c'était 2010. Ça fait donc 4 ans qu'on est avec vous.
Ça passe vite.
Ça passe vite. Donc, on va parler encore une heure autour des droits humains, autour de tout ce qui nous rassemble. Et je vais faire ce qu'on appelle un petit chapeau en termes de radio, parler un peu de considération par rapport à notre environnement actuel et notre actualité actuelle ici en France, et par rapport à tout ce qui se passe au niveau électoral, par exemple. Encore une fois, il n'est pas question qu'Amnesty International prenne position ou appelle à voter pour ou contre tel ou tel candidat. Ce n'est pas du tout nos préoccupations et notre façon de faire. Mais il faut quand même rappeler quelques vérités. Les valeurs sur lesquelles Amnesty International, comme toutes les organisations de défense des droits humains, ces valeurs sur lesquelles on pose notre action, sur lesquelles notre action est fondée, voilà, je vais arriver à le dire, c'est la liberté, la solidarité, l'entraide et la démocratie. Bon, et ça fait déjà énormément de choses. D'ailleurs, vous savez qu'à chaque fois, on a énormément de choses à dire dans toutes nos émissions par rapport à ces thèmes-là. Bon, ce sont des valeurs, je dirais, des valeurs ouvertes, des valeurs positives. Ça n'a rien à voir avec ce que proposent certains candidats et certains partis, qui sont même apparemment devenus aux dernières élections le premier parti de France. Je vais en dire un petit mot aussi sur cette histoire de premier parti de France, qui est une contre-vérité. Mais bon, certains partis qui reposent sur des valeurs, par contre, d'exclusion et de repli sur soi essentiellement. Ces valeurs-là, on sait généralement à peu près où ça commence. C'est-à-dire on nous emballe le paquet en disant « mais oui, mais c'est juste pour le bien fondé du fait que les Français vivent mieux, etc. » On sait que ça commence par ce genre de propos. On ne sait jamais où ça finit. Et généralement, ça finit dans des situations assez sordides, pour ne pas dire autre chose. Donc il faut toujours se méfier des gens qui nous vendent des choses très simples, soi-disant, et pas difficiles à comprendre, mais extrêmement dangereuses par derrière. Voilà, donc ça, c'est la première considération. Donc nous, c'est la liberté, la solidarité, l'entraide, la démocratie. Je pense que c'est les principaux thèmes. On va continuer dans ces domaines-là. Et je pense que c'est quand même des choses qui apportent, des valeurs qui apportent des événements extrêmement positifs. C'est bien plus intéressant de lutter pour faire respecter la liberté des autres, pour les aider à vivre dignement, aussi bien spirituellement, je pourrais dire, que matériellement, que de dire effectivement « un tel doit foutre le camp, machin, on n'en veut pas », etc. Je veux dire, c'est deux façons complètement opposées de voir le monde. Voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Et une autre chose, c'est qu'on nous dit effectivement depuis 48 heures là, que le Front National, encore une fois, pour ne pas les nommer, mais nommons-les, il n'y a pas de mystère, que le Front National est devenu le premier parti de France. Il suffit de faire un petit calcul pour s'apercevoir que bon, le Front National était fait arriver en tête avec 25% des voix. 25% des voix, ça veut dire que 75% des gens qui ont voté n'ont pas soutenu le Front National. Le premier parti, effectivement, a quand même 75% des votants qui ne le soutiennent pas. C'est quand même une énorme majorité. Et que parmi ces 75% de votants, il y avait aussi, enfin plus de ces 75% de votants, il y avait plus de 50% d'abstention. 56 ou 57%, quelque chose comme ça, d'abstention. Donc si on ramène ces 25%, si on les redivise par deux ou moins par rapport au taux d'abstentionniste, ça veut dire que par rapport au corps électoral, le Front National fait moins, nettement moins de 10% de la population. On m'expliquera qu'un parti est devenu majoritaire avec moins de 10% des électeurs inscrits. Franchement, c'est d'une façon de voir les choses qui est absolument catastrophique.
C'est pas mathématique.
C'est pas mathématique. Mais par contre, ça sert bien à un certain nombre de médias ou autres à faire rentrer dans la tête des gens un discours que nous, on considère effectivement, encore une fois, comme extrêmement dangereux. et que bon, faut pas oublier que 75% des gens donc qui ont voté et qui ont voté indifféremment du Front National, pour toutes les autres organisations politiques, quelles qu'elles soient, eux par contre, effectivement, ont en tête des valeurs de démocratie, de liberté et de solidarité, au moins un minimum, et que c'est quand même quelque part un peu rassurant. Voilà, puisqu'on parle de démocratie, de liberté et d'entraide, eh bien on va tout de suite vous annoncer une info, on y reviendra à la fin de l'émission, mais une info de nos amis du réseau d'éducation sans frontières. Ils organisent le samedi 15 mai à la maison de quartier de Netreville une journée qui s'appelle 8 heures pour les sans-papiers dans l'heure. C'est pas la maison de quartier ?
Non, mais la date.
C'est la date qui n'est pas bonne.
Ah, c'est pas la... ah, pardon, c'est pas le samedi 15.
Bah,
ah,
c'est samedi prochain.
C'est samedi... Bah, oui, pourquoi c'est j'ai marqué samedi, samedi 15 ?
Moi, je pense que
c'est trop vite d'avoir relevé l'erreur.
C'est à 15h.
C'est à 15h. C'est samedi prochain.
Non,
samedi,
on sera le 30. Les collègues.
Samedi, on sera le 30, c'est ça ? Ronan, t'as pas un calendrier sous les yeux ?
31 ou 30.
C'est le samedi qui vient.
Bon, voilà, excusez-moi,
dimanche,
c'était pas.
Le 1er juin, c'est ma fête.
Oui, non, d'accord.
Bon, ben voilà.
C'est samedi 15h et non pas samedi 15 mai, mais c'est samedi qui vient, c'est samedi à la fin de la semaine. Donc, si vous avez du temps, venez voir et venez aider le réseau Éducation sans frontières. C'est de 15h à 23h. Voilà, Edith me donne tout le détail. Et c'est 8h pour les sans-papiers dans l'heure. Donc, effectivement, une journée de solidarité pour tous ces gens, les sans-papiers, dont les droits fondamentaux sont bafoués. Et c'est notre raison d'être, encore une fois, avec une heure d'antenne avec vous, les gens dont les droits sont bafoués. Je vais arriver à le dire.
Et les gens ont des droits.
Excusez-moi, je suis un peu confus, mais je suis un peu fatigué aujourd'hui.
Et donc, c'est bien le samedi 31 mai.
Samedi 31 mai, voilà. Donc, on le redira tout à l'heure. Mais surtout, n'hésitez pas à aller soutenir les amis de Réseau Éducation Sans Frontières. Voilà. Edith va vous parler tout de suite d'un sujet un peu difficile, mais qui est le début d'une grande campagne d'amnistie qui va s'occuper de la torture.
Voilà, alors comme Didier avait vraiment beaucoup de choses à dire par rapport aux élections européennes, on va juste se présenter quand même.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. C'est ça.
Vous avez bien j'ai vu, manqué. Il n'était pas tout seul.
J'étais pas là à la dernière émission, je dis, tiens, c'est nouveau tour.
J'ai manqué à tous mes devoirs. Donc, avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et Ronan, derrière la console.
Bonsoir.
Oublie, réparer. Voilà.
Voilà. Et alors, moi, je vais continuer par rapport à ce que disait Didier. C'est que vous écoutez Principe Actif, vous nous écoutez, vous avez d'autres infos et allez chercher l'info ailleurs que dans les médias qui vraiment, on va dire, minimalisent souvent l'info et reste sur un slogan. Et effectivement, l'analyse de Didier renvoie à des choses un peu plus réelles.
Merci, j'espère.
Voilà, alors bon, là, effectivement, Amnesty va commencer une période pour une campagne. Alors la campagne, hein, voilà, c'est nos mots à nous, on ne va pas aller battre la campagne, mais on va essayer de faire que dans plusieurs États, il y ait des textes qui s'améliorent pour stopper la torture. Donc le titre de cette action qui va durer sur 2 ans, je crois.
Trois ans.
Va être donc Stop Torture. Alors, par rapport à la torture, c'est vrai que c'est un mot qui fait peur. Et puis, c'est un petit peu... J'avais envie de faire un petit point historique. Ah, souvent, c'est Didier qui fait ça. Là, c'est moi qui vais m'y coller. Après, vous allez pouvoir voir un peu si c'est plus intéressant. C'est un petit peu expliquer la torture, qu'est-ce que c'est ? Alors la torture, c'est on torture davantage pour faire taire, pour faire peur, que pour faire parler. La torture, c'est quelque chose qui s'entoure de secrets. Les secrets autour de l'acte, des lieux où ça se situe, des personnes qui la pratiquent. La torture, c'est pour imposer le silence à une société sous terreur, muselée par diverses censures. Les familles des victimes elles-mêmes, terrorisées par l'horreur qu'elles pressentent, conseillent souvent de se taire, d'oublier. Nous-mêmes, souvent, on préfère ne pas savoir. La torture, ça donne pas envie. C'est encore aussi le silence. La torture, c'est une machine à faire du silence. Alors la torture, elle est régie, enfin, elle est expliquée par rapport à la Convention des Nations Unies contre la torture. C'est une douleur, des souffrances aiguës, physiques ou mentales, qui a été infligée intentionnellement dans un but précis par un agent de la force publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Voilà le texte officiel. Mais la torture, ça va plus loin que d'infliger des douleurs physiques, des coups ou des mutilations. De plus en plus se développe une forme de torture basée maintenant sur l'isolement sensoriel, la privation de sommeil, des pressions psychologiques, des humiliations. Et les dégâts causés par cette torture blanche, sans agression directe du corps, sont souvent aussi terribles que des sévices physiques. Une femme, Fatma, rescapée de la torture, témoigne. Le pire moment, ça a été lorsque la police m'a fait écouter une fille qu'on torturait dans une autre pièce. Elle appelait ses parents en hurlant. Voilà. On se rend compte des dégâts que peut faire cette peur de la torture dans l'esprit. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à torturer? Pourquoi est-ce que les États, les pays continuent? Alors la guerre contre le terrorisme, c'est quelque chose dont on vous a parlé à Amnesty depuis malheureusement 2000.
Oui, 2000, depuis les événements de 2001.
De 2001. Ouais.
Après l'histoire du World Trade Center et la conduite des États-Unis.
Voilà, donc par rapport à ça, il y a eu une recrudescence de la torture en considérant qu'elle pourrait justifier parce qu'elle permettrait d'obtenir des informations indispensables dans des situations extrêmes. Mais en réalité, c'est plutôt un scénario imaginaire, celui, on va dire par exemple, du poseur de bombe avec un code qu'il faudrait absolument qu'il donne le code pour pouvoir éviter que la bombe explose. Bon, Amnesty, ce que Amnesty peut dire, c'est que ce scénario, c'est beaucoup plus celui d'un film ou d'une série que d'une réalité. L'histoire nous a appris que les informations obtenues sous la torture ne sont pas souvent fiables. De plus, ce que l'on peut se rendre compte, c'est que dans la majorité des cas, les victimes ne sont pas torturées dans un but de renseignement, mais pour les faire taire, pour les punir ou encore pour leur arracher de faux aveux et les condamner ainsi à l'issue d'un procès inéquitable. Ça, on vous en parle aussi souvent, Amnesty, que les aveux, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art d'un interrogatoire. Et les victimes, ce ne sont pas forcément des terroristes. Ce sont souvent des opposants politiques, des prisonniers de droit commun, des intellectuels, des marginaux. Et en torturant quelques membres d'une communauté, c'est toute cette communauté que l'on terrorise et que l'on réduit au silence. Une personne du Centre international de réhabilitation des victimes de la torture donne cette phrase pour résumer. Le but de la torture, c'est de nous faire tous taire. Pas seulement ceux qui sont torturés, mais nous tous que la torture effraie au point de nous rendre passifs. Alors ce qui se passe malheureusement après que les gens ont été torturés, c'est qu'il y a vraiment des cicatrices qui restent toute la vie. Pas forcément des séquelles physiques. Une victime de la torture a été traitée comme si elle n'était pas un être humain. On a cherché de façon méthodique et délibérée de la détruire, à faire effraction dans la plus intime partie de son être. De cette horreur, la victime gardera bien souvent pour le reste de sa vie des séquelles psychologiques très lourdes. Troubles de la mémoire, du sommeil, incapacité à se concentrer. Et si vous voulez aller voir sur un site aussi, on va dire, partenaire d'Amnesty, c'est l'association Primo Levi. Qui, à Paris, reçoit des gens qui ont été torturés, qui essayent, avec des psychologues, avec des aides, avec des lieux d'écoute, de pouvoir les remettre, on va dire simplement, un pied devant l'autre. Et on voit que les dégâts, que ce soit pour des femmes, pour des enfants, pour des parents qui ont disparu ou des enfants qui ont été torturés, c'est très, très compliqué. Et donc, vous pouvez aussi aller voir sur ce site-là.
Si je peux me permettre un petit commentaire sur ce que tu viens de dire, Edith, quand tu parlais de la torture utilisée pour faire parler les gens, c'est ce que les États-Unis ont beaucoup dit quand George Bush a réautorisé indirectement la torture, chose qu'ils n'ont pas faite sur leur territoire, parce qu'ils faisaient faire à l'extérieur. Il y a le film, effectivement, oui, tu vas en parler aussi, mais il y a le film Reddition qui avait été soutenu par Amnesty il y a quelques années, qui en parlait très bien. Et donc un des arguments, c'est de dire, oui, mais bon, on va peut-être torturer quelqu'un, c'est pas très propre. Mais on va obtenir des informations qui vont nous permettre de protéger la vie d'innocents qui auraient été victimes d'attentats ou de choses comme ça. Les travaux qui ont été menés par Amnesty et d'autres, mais par Amnesty aussi, montrent qu'il n'y a jamais eu aucune preuve, aucun élément qui a permis d'obtenir des renseignements qui ont pu permettant d'éviter ce genre d'action terroriste. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'il y a eu des attentats qui ont été évités, c'est par d'autres formes de renseignements, des renseignements d'espionnage, des renseignements des procédures policières absolument classiques, et là qui sont effectivement conformes au droit, mais jamais avec des éléments obtenus sous la torture, parce que sous la torture, les gens, au bout d'un moment, en général, ils craquent, et ils disent absolument tout et n'importe quoi pour protéger leur vie. Ça, c'est classique. Donc, des éléments qui ont permis de protéger la vie de civils qui, sinon, auraient été menacés, ce n'est jamais arrivé.
Voilà, c'est de l'ordre de l'imaginaire. C'est de l'ordre de l'imaginaire et c'est de l'ordre des peurs que l'on peut véhiculer et la façon de justifier ces actes. Et effectivement, quand tu parles effectivement des États-Unis, la façon qu'ils ont trouvé après les événements terroristes, c'est effectivement d'envoyer les gens dans d'autres pays où la torture était possible. Donc c'est le transfert d'une personne d'un pays à un autre en dehors de tout cadre dicté par le droit international, bien entendu, parce que là, c'est très, très caché. Le plus souvent, dans le plus grand secret, ce système permet d'envoyer des suspects dans un pays où la torture est pratique courante. Donc on a des témoignages, on vous en a déjà parlé, là je peux vous en redonner un témoignage d'une personne restituée. Les Américains m'ont envoyé en Jordanie pour y être torturé, puis à Bagdram, et enfin ici. Je vis hors du monde depuis plus de 4 ans et je ne sais vraiment pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est Mohamedou Salid à Guantanamo qui raconte ça. Parce que Guantanamo existe toujours. Et ça aussi, c'est un lieu de torture.
Et oui, le président Obama, ça fait quand même bientôt 8 ans. Il est arrivé à la moitié de son deuxième mandat, 6 ans. Il avait signé le texte de fermeture de Guantanamo. C'est compliqué pour qu'une signature passe dans la pratique aux États-Unis. 4 ans, 6 ans, on est toujours au même point.
Et ce qu'on peut dire aussi donc, par rapport à la torture, c'est que les textes internationaux existent. En premier, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, et le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Et l'interdiction de la torture est une norme absolument impérative. Les États ne peuvent s'y soustraire, sous aucun prétexte. Donc tout existe au niveau légal, mais il va falloir refaire une campagne et on va avoir l'explication d'Amnesty par rapport à certains pays qui continuent à torturer et qui restent ceux pour lesquels on va faire signer et pour lesquels on va travailler. Donc, je pense que là, on peut peut-être...
On parlait des pays sur lesquels on va travailler plus concrètement, c'est ça?
Oui, voilà. Ouais. Et par rapport à un petit sondage, je pense que là, on peut juste expliquer parce que Amnesty, avant de faire la campagne, a voulu quand même voir ce qui se passait dans le monde. Et il y a eu une enquête mondiale menée auprès de 21 000 personnes vivant dans 21 pays disséminés. Oh ben là, c'est quand même du sondage, quand même. Hein. Ça commence à faire du monde. Et qui indique que dans tous ces pays, les gens craignent d'être torturés.
Oui, l'enquête dit que dans une nouvelle enquête mondiale, donc menée auprès de 21 000 personnes, comme l'a dit Edith, vivant dans 21 pays disséminés sur tous les continents, cette enquête indique que dans tous ces pays, des gens craignent d'être torturés. Près de la moitié des participants à l'enquête redoutent d'être torturés s'ils venaient à être placés en garde à vue.
Voilà, donc il y a un sentiment global d'insécurité face à la torture. C'est un mot qui fait peur.
Il est inquiétant de constater que près de la moitié des participants à cette étude, 44%, qui vivent dans 20 pays répartis sur tous les continents, pensent qu'ils risqueraient d'être torturés s'ils étaient placés en garde à vue dans leur pays. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire, effectivement. Voilà. Et donc, il y a un besoin criant d'une solide protection juridique. Une écrasante majorité de participants, 82, estiment qu'il devrait exister des lois claires contre la torture. Ils expriment le souhait qu'un arsenal juridique solide les protège de la torture. Et donc, il faut rappeler aussi que ces lois, en général, elles existent. Il y a eu un tas de lois qui ont été établies au niveau de l'ONU, etc., contre la torture, que beaucoup de pays ont signées, mais qu'après, ils ne respectent pas.
Alors, ce qui est aussi inquiétant, c'est que la torture continue parfois d'être justifiée et acceptée dans certaines conditions. Ça, c'est ce que disent les gens quand on les interroge. 36 personnes pensent encore que le recours à la torture peut être justifié. Le résultat de cette enquête est surprenant, car les participants pensent qu'ils pourraient eux-mêmes être torturés. Pour la majorité, alors non, je redis à peu près la même chose. Donc on peut dire qu'il y a des disparités aussi entre les pays occidentaux.
Alors, à la question si j'étais placé en garde à vue par les autorités dans mon pays, je suis certain que je risquerais d'être soumise à la torture. 83% d'interrogés au Royaume-Uni se sentent en sécurité dans leur propre pays, tandis que seulement 47% de la population espagnole interrogée pense ne pas risquer d'être soumise à la torture. Cette différence est encore plus importante en Grèce, où seulement 34% des personnes interrogées se sentent protégées d'un risque de torture. Et là, on parle de pays de la communauté européenne en plus.
Voilà.
Ce n'est pas, les pays, ce n'est pas la Chine, ou ce n'est pas les pays d'Afrique dictatoriaux. Là, c'est des pays qui sont supposés des démocraties.
Et alors, quand on continue par rapport à ce qu'on vous a dit, la guerre contre le terrorisme, si on interroge des Américains, presque un Américain sur deux pense que la torture se justifie. Les personnes interrogées en Allemagne, elles, sont positivement en désaccord, tandis qu'aux États-Unis, l'héritage de le post-11 septembre reste bien présent. 45% des sondés justifient la torture dans certaines circonstances. Voilà ce qu'on peut en dire. Et ce que peut nous en dire Geneviève Garrigos?
dans le monde entier. Alors, c'est Geneviève Garrigos qui parle, la présidente d'Amnesty International.
On s'est trompé de rôle, zut.
C'est pas grave, elle nous en voudra pas, Geneviève, hein, qu'on embrasse au passage. Dans le monde entier, des gouvernements font preuve d'hypocrisie face à la torture. Ils l'interdisent à travers la législation, mais l'encouragent dans la pratique, dénonce donc Geneviève Garrigos. La torture est non seulement toujours pratiquée, mais elle est même prospère dans de nombreux pays à travers le monde. De plus en plus de gouvernements tentent de justifier le recours à cette pratique au nom de la sécurité nationale, affaiblissant les progrès réalisés dans ce domaine depuis 30 ans. Si je peux dire un petit commentaire sur ce qu'on vient de lire au niveau des pays, ce qui est tout à fait intéressant, ça me venait à l'esprit là, en lisant le texte, c'est qu'on voit que par exemple les gens qui craignent dans les pays de l'Union européenne, les gens qui craignent davantage la torture en cas d'arrestation et de garde à vue, sont en Espagne et en Grèce. Ce sont des pays européens qui ont vécu des dictatures il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, comme quoi ça marque bien les esprits, parce que toutes les dictatures utilisent massivement la torture, ça c'est pas un scoop, et les gens qui ont connu dans des époques relativement récentes des dictatures s'en souviennent encore visiblement très bien. Et aussi la différence d'interprétation entre les États-Unis, l'opinion publique américaine, qui justifierait la torture pour obtenir des aveux, etc., etc., et l'opinion parfaitement opposée en Allemagne. En Allemagne, tiens donc, en Allemagne avec le nazisme, effectivement, l'histoire récente allemande est lourde par rapport à tout ça.
Voilà, effectivement, donc ce qu'on peut dire pour finir par rapport à la problématique de la torture elle-même, c'est qu'au-delà des individus qui en sont directement victimes, la torture propage son poison dans toute une société. Des familles entières sont brisées par la peur, le traumatisme d'avoir un proche ayant subi cette monstruosité. Et plus encore, c'est toute la confiance d'une population dans l'État qui risque de disparaître lorsque ce dernier, en torturant, devient lui-même terroriste. Oui. C'est tout à fait ce que tu viens d'expliquer.
C'est important, effectivement. C'est sûr que c'est un peu comme la peine de mort. Un État qui tue, qui condamne à mort, devient de toute façon un meurtrier. Un État qui torture ou qui autorise la torture, et c'est le cas des États-Unis maintenant, devient effectivement un État terroriste.
Je pense qu'après toutes ces paroles qui ne sont pas très gaies par moment, il serait peut-être temps de passer une petite pause musicale, non ?
C'est pas tout très gay, mais c'est important.
Ah non, c'est très important, mais quand je dis c'est pas gay, c'est pour...
Voilà, une petite pause musicale.
Mais nous, c'est vrai. Fait plus que les médias, on explique.
Voilà, mais tout à fait, mais non, mais c'est très intéressant, mais c'est vrai que...
Ronan musique.
On va peut-être en dire un mot après la pause musicale.
Voilà.
Oui,
voilà.
Je pense que pour les auditeurs...
On terminera sur le chapitre après, mais quelques notes de musique.
Make my way on down to that promised land, and then I'm born.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux, donc notre heure d'émission sur la défense des droits humains. On vient d'entendre Neil Young et un morceau qui s'appelle Far From Home. Voilà, on vous l'a passé parce que c'est un morceau que j'aime bien, c'était la seule explication. Voilà.
Voilà, c'est une bonne. C'est, tout.
C'est une bonne explication. Moi, j'ai eu la chance de voir Neil Young l'année dernière en concert et c'était exceptionnel.
Je ne l'ai jamais vu. Bon. Sur scène, juste sur scène. Donc, on parlait de la torture. Effectivement, on va terminer sur ce dossier un peu, comme disait Ronan, un peu difficile, parce que pas très gai, c'est sûr.
Oui, mais il faut en parler.
Et il ne faut pas oublier que l'action d'Amnesty, c'est effectivement pour défendre les droits des gens qui sont torturés, et pour essayer de faire que le maximum de pays n'ait plus recours à ce genre de pratiques absolument insupportables.
Et vous savez que dans ce cas-là, on vous demande aussi de travailler avec
d'agir,
nous.
D'agir, voilà.
Voilà, et donc, dans le cadre de la campagne Stop Torture, Amnesty France va travailler particulièrement sur certains pays.
Oui.
On va vous les dire tout de suite.
Oui.
Et on va se retrouver quand, là? On est au mois de mai, après le mois de juin. Où est-ce qu'on va aller vous voir tous, bah, là, les Hébroïciens?
Le dernier week-end du mois
de juin.
Le
dernier week-end
du mois de juin,
c'est le rock.
C'est le rock. Et au rock, vous allez pouvoir montrer votre intérêt pour que la torture stoppe. Donc, on va pouvoir vous présenter là-bas des pétitions. Ah, ça, Amnesty sans pétition, c'est plus Amnesty. Hein. On va vous expliquer ce qui se passe au Mexique. Alors, au Mexique, le gouvernement affirme que les cas de torture sont exceptionnels. Mais en réalité, il est fréquent que la police et les forces de sécurité pratiquent ce type de sévices, et ce, sans être sanctionnés.
Tu veux dire que le gouvernement mexicain, il ment ?
Oh.
Mentir, disons qu'un rapport à la réalité compliqué, qu'il faut qu'on les aide à mieux voir ce qui se passe.
D'accord.
Ça te va, ça?
Tout à fait. Un gouvernement qui ment, ça n'arrive pas,
non? Non, mais bon, c'était une question.
Donc, vous allez pouvoir signer pour Myriam López Vargas, mère de 4 enfants. Vous lirez là-bas.
Oui.
Ce qui lui est arrivé, mais ça a été très compliqué pour elle. Elle est très courageuse pour vouloir la justice.
Après, aux Philippines, la justice est hors d'atteinte pour la plupart des victimes de torture. Un lieu de détention secret où des policiers maltraitaient des détenus pour s'amuser, dit le texte, a été récemment découvert. Selon certaines informations, des policiers faisaient tourner une roue de la torture pour décider des sévices qui seraient infligés aux détenus. Le retentissement médiatique de cette affaire a entraîné l'ouverture d'une enquête interne et quelques policiers ont été renvoyés. Cependant, Amnesty International réclame une enquête impartiale et exhaustive au terme de laquelle des policiers impliqués seront traduits en justice. La plupart des actes de torture commis par la police ne sont pas signalés et les victimes continuent de souffrir en silence.
Alors, le Maroc et le Sahara occidental, où les autorités enquêtent rarement lorsque les cas de torture sont signalés. Et vous pourrez signer pour aider Ali Arras, qui a été torturé au Maroc. Au Nigeria aussi, les policiers et les militaires ont couramment recours à la torture. Et là, il y aura aussi une pétition pour Moshe Akatumba, qui avait 16 ans lorsqu'il a été arrêté par les soldats. Et pour finir ça, l'ami Ronan.
Vous parlez du dernier pays qui est en ligne de mire des actions d'Amnesty sur la torture. C'est le dernier Ronan sur la page. Ronan,
c'est pour le coup qu'il le prononce.
Ouais, mais je vois marquer D.
Non, c'est pas grave. Tu cherches pas, tu dis le nom du pays, Ronan.
Voilà.
Où ? Ça commence par où ?
Ronan
est
perdu.
Ça y est.
Ronan était perdu. Et ça y est, il a retrouvé le fil.
Il faut, pour ceux qui connaissent pas le studio, en fin de compte, je suis en phase 2, donc il y a un bureau entre nous. Bon,
je lui ai passé la feuille, mais il a pas eu le bon côté.
Donc le dernier pays, c'est en Ouzbékistan.
C'est juste pour qu'il prononce.
Ah ouais, mais c'est toujours pour moi ces pays-là. Où la torture est très répandue, mais les tortionnaires sont rarement traduits en justice. Amnesty International n'est pas autorisé à entrer dans ce pays.
Voilà.
Voilà, oui. Rendez-vous au ROC pour les premières signatures bon. Et allez voir sur le site d'Amnesty pour plus d'infos.
Et vu que j'avais la parole, moi je pense que il est peut-être temps de lancer peut-être une bonne nouvelle, non ?
Oui.
Quelques
oui.
bonnes nouvelles après
oui.
toutes ces...
Oui, parce qu'on ne fait pas que dénoncer des choses, on obtient aussi des résultats à Amnesty. On le répète à chaque émission, mais il faut toujours le rappeler.
Voilà.
Donc, Renan, vas-y.
Alors, la première bonne nouvelle concerne le Bahreïn, où Nabdel Rajab, qui est président du Centre des droits humains du Bahreïn et qui est détenu donc, depuis le 9 juillet juste pour avoir manifesté par rapport aux droits humains, ben, il vient d'être libéré, c'est récent, le 24 mai.
9 donc, juillet, mais ce n'était pas de cette année, hein, bien sûr.
Non, depuis le 9 juillet 2012 qu'il était en
2012,
prison.
2012, ça faisait deux ans.
Au départ, il était emprisonné pour 3 ans et après, sa peine a été ramenée à 2 ans. Donc il a été libéré donc, le 24 mai. Tout ça juste pour manifester, pour défendre
voilà.
les droits.
Et oui. on peut rajouter qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées au Bahreïn avant le 24 mai, parce qu'on avait peur qu'ils fassent des prolongations.
Tout à fait.
Sur ça.
Ils avaient peur qu'ils fassent prolongation d'une année et tout ça. Donc, ils avaient promis le 24 mai et il a été libéré.
Vous rappelez qu'au Bahreïn, ça faisait partie des pays qui ont participé au printemps, comment ça s'appelait, au printemps arabe, là, dans les pays en Tunisie, en Égypte, etc., Égypte, toutes les
tout
révolutions. Le Bahreïn aussi y a participé, mais jusqu'à présent, les gens qui réclamaient la démocratie là-bas n'ont pas obtenu gain de cause, loin de là. Mais notre ami, effectivement, qui vient d'être libéré, était un des leaders du mouvement. Donc, c'est un avocat, si je ne m'abuse, je crois d'ailleurs. Bon, sauf erreur. C'est pas grave.
Donc, là du Bahreïn, bah, je passais en Centrafrique. Donc, il y a eu un groupe de 44 adolescents, donc centrafricains, âgés de 13 à 17 ans, dont deux filles, qui ont été libérées de la prison de très haute sécurité de Korotoro, Tchad, et sont aujourd'hui sous la protection de l'ONU. Ils étaient détenus dans cette prison aux confins du désert en compagnie de plus de 200 combattants adultes depuis janvier 2015. Et ces enfants, ils ont juste fui le.
Non. 2015.
On a du mal avec les dates aujourd'hui.
On est dans le futur. On a du mal dans les dates. Oui.
Entre tout à l'heure.
Ce sera une émission en dehors des dates. Hein, voilà. Dehors des dates. C'est vrai qu'on est le 31 février aujourd'hui, c'est ça ?
Ouais, tout à fait ça. Ouais. Donc, ils étaient emprisonnés depuis janvier 2014. Et tout ça parce que ces enfants, ils avaient fui le conflit armé qui se passait en République centrafricaine. Donc, une note, allez, je peux continuer.
Oui. Allez, il ne faut pas hésiter.
C'est juste pour parler d'un traité qu'on a déjà parlé depuis un petit moment. Donc c'est le TCA, donc c'est le traité sur le commerce des armes.
Ouais, tu l'as bien étudié, celui-là. Hein.
Ah oui, ça fait depuis...
C'est pour ça que tu tiens.
Tout à fait, mais c'est vrai que j'y tiens particulièrement. Donc, un an après l'adoption du traité sur le commerce des armes par l'Assemblée générale des Nations Unies... Oh, j'ai du mal ce matin.
Ce matin. Ce soir. Ouais. On est le soir, Renaud, on est le soir. On est mardi. Allez, vas-y, continue.
Donc, depuis un an, ce sont 31 États qui ont ratifié donc le commerce. Le 2 avril 2014, lors d'un événement de dépôt des instruments de ratification organisé par la France et l'Allemagne, 18 États ont rejoint les 13 premiers pays ayant ratifié le traité. Il faut savoir que le traité rentrera en vigueur 90 jours après la 50e ratification. Donc, pour l'instant, on est à 31 pays qui l'ont ratifié. Donc, je pourrais poser un petit quiz, mais je ne vais pas vous demander le nom de chaque pays.
Oh non.
Non.
On serait incapable. Je sais que la France.
Donc, en fin de compte.
La France l'a fait.
Tout à fait. Donc, c'est un poste géant, mais il reste encore trop d'États qui sont à la traîne. Tant que davantage d'États n'auront pas pris des mesures pour faire entrer en vigueur le TCA, des millions de personnes, je dis bien des millions de personnes, dans le monde continueront à souffrir des conséquences meurtrières du commerce mondial des armes, trop faiblement réglementé. Telle est la mise en garde d'Amnesty International un an après son adoption.
Mais il suffit de penser à la Syrie, par exemple.
Tout à fait. Et pour que le traité instaure des modalités vraiment mondiales de limitation des armements, les grands producteurs d'armes qui restent sceptiques, comme le Canada, Israël et les États-Unis, et les importateurs, comme le Pakistan et l'Ukraine, devront ratifier le texte. En même temps que la totalité des 43 pays qui traînent des pieds en n'ayant ni signé ni ratifié le traité. Ces États faisaient pourtant partie des 155 qui se sont prononcés en faveur de l'adoption du traité aux Nations Unies l'an dernier. Donc un petit quiz, mais qui est très facile. Il y a deux pays qui n'ont pas signé.
Ils n'ont pas signé le traité ?
Ouais.
La Chine ?
Voilà.
J'imagine.
Et le deuxième ?
L'Iran ? Non ?
Non, la Russie.
Ah, la Russie. Ah oh, ouais, notre ami Poutine.
Ah
j'oubliais.
Bah, tout à fait.
J'oubliais.
Tout à fait notre ami Poutine. Mais par contre, les diplomates pensent que la Chine et la Russie le signeront une fois qu'un nombre important d'États ils seraient ralliés.
Ils traînent les pieds,
donc,
quoi.
Ils traînent les pieds, ce qui veut dire que quand on aura eu les 50 États, donc ils seraient quelque part, ils signeraient.
Bon, ben on espère et tu continues enfin,
De toute façon, on est sur une pente positive par rapport à ça, même si on est encore loin du but. Il ne faut pas rêver.
Ouais, mais on a fait plus la moitié, on est à 31 sur 50. Oui.
Et puis après, il faudra veiller à son respect aussi.
Voilà, un petit point en plus, c'est que les États peuvent signer, ça ne les engage pas, il faut qu'ils ratifient. Oui. Voilà, c'est, ça c'est les petits trucs, les gens, ils n'ont pas forcément...
C'est pas évident à comprendre.
Donc, la ratification, signé, c'est le fait de mettre le texte dans son droit intérieur.
Il y en a 150 qui ont signé, mais pour l'instant, on n'est qu'à 31 qui l'ont ratifié.
Donc il en faut encore, on va continuer.
Tout à fait.
Oui, on va changer de pays.
Attention, le moment sportif.
On fait le tour du monde.
Oui, on fait le tour du monde. Parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques...
Commentateur sportif.
Dans quelques semaines, va ouvrir la Coupe du Monde de foot au Brésil.
Dans deux semaines.
Il va nous dire les pronostics, Didier.
Commentateur sportif, oui, surtout que je regarde le foot très peu. Souvent.
Il y a combien de joueurs sur le terrain?
Qui est-ce qui joue ce
soir?
Il y a
11 joueurs dans une équipe de foot.
Il y a un match ce soir.
Je ne sais pas qui joue ce soir.
Allez, France.
France-Norvège.
Ouais, ah bon, quand même.
Bon, au Brésil, c'est pas au Brésil, ça.
Mais non, ça, c'est avant. C'est avant.
On appelle ça les matchs amicaux. C'est pour tester les joueurs.
Bon, alors vous savez, voyez, Didier connaît vraiment le sport.
Alors vous allez peut-être vous dire pourquoi on vous parle de football. Ben non, c'est pas pour vous parler de football. Bien sûr que le football, c'est le football. Les droits humains, c'est les droits humains.
Non, on voit bien que c'est pas ton truc.
C'est pas mon truc non plus, c'est vrai. Mais en plus, voilà, il ne s'agit pas effectivement pour Amnesty de parler de football pour le football. C'est pas ça. C'est que le fait d'organiser la Coupe du Monde de football donc au Brésil le mois prochain a des conséquences sur la population locale en termes de droits humains.
Ils vont aller au stade.
Ils vont aller au stade, oui. Mais pour effectivement construire les stades, construire les abords des stades, y a des gens dont les droits fondamentaux sont bafoués. On va vous l'expliquer. C'est des gens qui subissent des expulsions forcées. Et au Brésil, ces derniers temps, effectivement, avec l'arrivée de la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques dans 2 ans, eh bien, les expulsions forcées, ça devient monnaie courante. Donc, des gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain.
Ça me rappelle la Chine, il y a quelques années.
Donc, on va vous lire avec Edith un dossier qui est paru dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty, mais qui est vraiment très bien fait. Pour s'abonner, vous allez sur le site amnesty.fr, vous avez toutes les informations. Et donc, qui est paru il y a quelques temps dans la chronique et qui fait le point sur la situation de les problèmes d'expulsion forcée au Brésil dans le cadre de ces modifications, principalement à Rio de Janeiro. Donc, on va le lire à deux, on va le lire de façon assez tonique quand même, mais bon, c'est un peu difficile à résumer.
Mais c'est intéressant, tout nous semble intéressant, voilà. On n'arrive pas à enlever des morceaux.
Voilà. Donc, perché sur son escabeau, un pinceau imbibé de peinture bleue, ciel à la main, Everaldo Florano de Carvalho repeint la façade de sa maison située au cœur de la favela Indiana, dans le quartier de Tijuca. Vous m'excuserez, je ne parle pas non plus portugais.
Sabine n'est pas là.
Non, mais elle parle espagnol, ce n'est pas portugais.
Ouais, mais elle devrait savoir un peu mieux.
À l'ouest de Rio de Janeiro.
Portugal, Espagne.
3 ans qu'il reportait ses travaux à une date ultérieure. En janvier 2011, explique cet homme de 36 ans, l'ancien secrétaire municipal d'habitation est venu nous informer que la municipalité de Rio de Janeiro avait décidé de faire des travaux d'amélioration de notre favela. L'idée était de nettoyer la rivière Maracana qui traverse la communauté. Pour cela, certaines maisons situées en bordure du cours d'eau, considérées comme une zone à risque, devaient être détruites. Le responsable avait alors assuré que les familles concernées seraient relogées dans un quartier à quelques kilomètres. L'invitation, entre guillemets, valait également pour tous les autres habitants de cette favela créée en 1947, uniquement sur la base du volontariat. Par contre, ceux qui voulaient rester, précise Everaldo, pouvaient compter sur les améliorations. Mais nous nous sommes aperçus que tout cela n'était qu'une manipulation pour diviser la communauté, car la mairie n'avait qu'un objectif, raser la favela, comme ils l'ont fait ailleurs, pour faciliter la construction d'immeubles luxueux, sans respecter notre droit à avoir un logement. Rio de Janeiro s'apprête à accueillir l'été prochain quelques-uns des matchs de la Coupe du Monde 2014. 2 ans plus tard, la seconde ville du Brésil sera le siège des 31e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Ces deux méga-événements, présentés à l'époque de leur attribution comme une formidable opportunité à moderniser la cité merveilleuse, n'en finissent pourtant pas de soulever des problèmes. Car la construction de voies express, la réalisation de travaux autour du stade Maracana, la modernisation de la zone portuaire ou encore les aménagements urbains autour du futur parc olympique ont d'ores et déjà entraîné plusieurs milliers d'expulsions forcées. Principales victimes, les populations vivant dans certaines favelas. Les favelas, c'est des bidonvilles. Les quartiers informels de la ville. Selon les propres chiffres fournis par les autorités municipales, plus de 19 000 familles, soit près de 100 000 personnes, ont déjà été déplacées depuis octobre 2009. explique Renata Neder, responsable du dossier au sein du bureau d'Amnesty International de Rio de Janeiro. Et pour une grande partie d'entre eux, leurs droits les plus élémentaires ont été violés. Pour s'en convaincre, il suffit d'assister à l'une des réunions mensuelles organisées par le Comité populaire de la Coupe et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, regroupant des dizaines d'associations, d'organisations sociales, d'associations d'habitants et de favelas de la ville, et auxquelles participe également Amnesty. L'occasion de rencontrer des habitants menacés d'expulsion, mais aussi des victimes. C'est le cas de Michel Souza de Santos, qui vivait dans la favela de Restinga, une communauté située sur le tracé de la voie express Trans-Ouest. Le 22 octobre 2010, dans la matinée, des hommes ont débarqué avec des bulldozers, se souvient ce commerçant. Il y avait des fonctionnaires municipaux et des policiers lourdement armés. Obligeant les familles à quitter leur maison, les policiers laissaient ensuite leur machine finir le travail. Si quelqu'un refusait de partir, le bulldozer enfonçait la porte. Résultat, près de 500 familles qui vivaient et travaillaient à Restinga ont perdu leur maison et pour certains, leur emploi. Les plus chanceux ont bénéficié, entre guillemets, d'un loyer social, 400 réals portugais, dérisoire au regard du marché immobilier. D'autres ont été relogés dans une lointaine banlieue, certains attendent encore d'être indemnisés.
Alors, on va parler aussi du maire de Rio de Janeiro, qui est Eduardo Paes. Alors lui, il dit « Les autorités de la ville n'ont procédé à aucune expulsion forcée. Les familles ont été indemnisées de façon adéquate avant qu'elles ne perdent leur logement. » Cette affirmation, Amnesty la conteste. « Dans le cadre des investigations que nous avons menées, nous avons recensé de très nombreuses violations des droits », assure Renata Neder, déjà citée par Didier tout à l'heure, qui s'occupe à Rio de Janeiro d'Amnesty. Des milliers de familles ont d'ailleurs dû quitter leur domicile sans avoir été informées suffisamment à l'avance. Dans la plupart des cas, aucune consultation ni dialogue préalable n'ont été lancés, ne serait-ce que pour informer les habitants du calendrier des travaux. Les propositions d'indemnisation, lorsqu'elles ont été formulées, se sont le plus souvent révélées indécentes au regard des prix du marché immobilier pratiqués à Rio. Quant au relogement, ils sont généralement éloignés, avec pour conséquence de faire perdre leur emploi à des personnes qui n'ont ni le temps ni les moyens d'emprunter les transports publics. Si la plupart des organisations de la société civile, à l'instar du Comité populaire, reconnaissent qu'il est nécessaire que les autorités de Rio mettent en place des infrastructures indispensables au succès et à la sécurité de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques en 2016, de nombreux observateurs dénoncent néanmoins les alibis que constituent ces futurs grands rendez-vous sportifs. Ainsi, pour Carlos Venner, professeur à l'Institut de recherche et de planification urbaine et régionale, la cité est tout simplement en train de devenir une ville d'exception. La ville d'exception transforme le pouvoir en instrument pour mettre la ville, de façon directe et sans médiation, dans la sphère politique, au service de l'intérêt privé. Cet avis est partagé aussi par Eliomar Coelho, conseiller municipal depuis plus de 20 ans. Le maire actuel de Rio de Janeiro administre la ville comme si c'était une entreprise, avec un seul objectif, nettoyer Rio de ses pauvres et la transformer en une cité simplement pour les élites, en se servant de l'accueil des méga-événements pour justifier les expulsions de milliers de cariacos pauvres. Alors, je peux faire juste un tout petit commentaire.
Bien sûr.
Effectivement, les favelas, rappelez-vous ce que vous avez vu, elles ont vu sur la mer, elles ont vu sur les endroits qui peuvent être des endroits avec de l'argent excessivement intéressant pour des promoteurs immobiliers. Donc, là, les pauvres, on va les mettre plus loin. C'est un peu ce que dit cet article. Alors, Didier, terminé.
Oui. Et alors, le dossier continue en disant c'est également ce sentiment, donc d'en faire d'expulser les pauvres, c'est également ce sentiment des habitants de la villa Ododromo, une favela abritant près de 3000 personnes située en bordure du lac de Jicaperaga, à l'ouest de la ville. Particularité de cette communauté, elle n'est pas bâtie sur une colline, mais au bord d'une lagune. Composée de familles de pêcheurs, Villa Ododromo offre aussi une vraie mixité sociale et n'a jamais connu de problème de sécurité ou de trafic de drogue. Autre point important, en 1980, l'ensemble des familles a obtenu du gouvernement de l'État de Rio une concession de ses terres pour 99 ans. Pourtant, cette favela, simplement séparée du futur parc olympique par un mur d'enceinte, a été menacée de disparaître dès le début des années 90. De nombreux arguments ont été utilisés pour tenter de justifier l'expulsion des habitants. souligne Renata Nader, y compris le dommage esthétique. Ce dernier a été la nécessité de faire passer une nouvelle voie rapide. La mairie a même fait l'acquisition d'un terrain à moins d'un kilomètre afin d'y construire des logements sociaux. De quoi faire engager Alter Quimares, président de l'association des habitants de Villa Autodromo et résident depuis plus de 20 ans. Nous vous vous souvenez de Robin des Bois ? Il volait aux riches pour donner aux pauvres. C'est lui qui parle. Eh bien, à Rio, nos hommes politiques font le contraire. Ils volent les pauvres pour donner aux riches. Cette colère a surtout nourri une farouche résistance. Nous nous sommes organisés et nous avons sollicité un groupe d'experts universitaires, explique Maria De Peña, 48 ans, riveraine depuis 2 décennies. On a travaillé à un plan d'urbanisation alternatif qui prévoit de goudronner les rues, de créer un réseau d'égouts, de rénover des maisons insalubres et même de construire une école et une crèche. Le tout pour un coût 40% inférieur à ce que propose la mairie. Soutenu par des organisations de la société civile, dont Amnesty International, le dossier a été longtemps ignoré par le maire, du moins jusqu'au 9 août 2013, lors d'une réunion regroupant plusieurs services municipaux et les différents protagonistes du dossier. Eduardo Paes, donc le maire, Bénédicte vous en parlait tout à l'heure, a en effet reconnu qu'il y avait eu des erreurs dans le traitement de la communauté et il s'est dit prêt à ouvrir des négociations basées sur le principe du maintien de la Villa Autodromo et de son urbanisation. Une victoire pour les habitants de cette favela et surtout un espoir pour tous les habitants des favelas de Rio et du Brésil de voir enfin leur droit à un logement être respecté. Et c'est cet espoir qui a aussi poussé Everaldo à repeindre enfin la façade de sa maison. Voilà. Dans le dossier, on va abréger dans le dossier, il est cité une action qui a mené Amnesty, c'était en septembre, le 19 septembre 2013, donc il y a déjà quelques mois. Mais donc pour faire participer les gens, pour les sensibiliser au problème des expulsions, il y a eu des matelas symbolisant les expulsions forcées et expliquant le parcours d'un habitant des favelas qui est expulsé, qui ont été disposés devant l'hôtel de ville pendant toute une journée, de façon un peu provoquée par Amnesty, mais qui a permis de sensibiliser la population aux atteintes aux droits fondamentaux que constituent ces expulsions forcées. Il y a des photos sur le dossier qui montrent que les gens s'arrêtaient pour regarder, effectivement.
Pour faire une sieste, non ?
Pas du tout. Il y avait des explications sur les matelas qui n'étaient pas. Les matelas, après, ont été donnés, effectivement, à des associations humanitaires et autres. Et donc ça, c'était l'initiative d'Amnesty Brésil le 19 septembre 2013. Et il y a également dans ce dossier toute la politique, entre guillemets, qui est menée par Amnesty Brésil par rapport à ce dossier. Là, je ne vais pas vous en parler en détail, mais la collaboration avec d'autres ONG et le soutien qu'ils apportent effectivement à ces populations qui sont expulsées de force. Encore une fois, l'expulsion de force, c'est une atteinte aux droits fondamentaux.
Et allez voir sur le site d'Amnesty, je n'ai pas été vérifiée ce mois-ci, mais il y avait encore des vidéos justement des gens de Villa, je ne sais plus comment c'est, ceux qui habitaient près de la lagune et qui expliquaient effectivement qu'ils étaient très bien et qu'ils ne voulaient pas partir. Et d'autres personnes qui expliquaient qu'ils allaient être relogés, mais à 3 heures de route, qu'ils n'avaient pas d'argent pour prendre les transports communs. Donc c'était toute leur
enfants,
vie qui était
leurs enfants portugais ne peuvent plus aller à l'école. Voilà. Parce qu'ils n'ont plus accès aux écoles, enfin, etc. etc. Alors, encore une fois, regardez les matchs de foot, hein, pour ceux qui sont passionnés, c'est tout à fait, vous avez tout à fait le droit, ce n'est pas ça le souci, mais simplement, il faut avoir présent à l'esprit que toutes ces manifestations-là ne se passent pas dans les meilleures conditions et que des gens qui y sont pour rien, effectivement, en subissent les conséquences. C'est le discours
c'est
d'Amnesty.
C'est peut-être une histoire d'argent, le foot, un peu, non ? Bon, allez, on passe.
Renan disait tout à l'heure que les États ne mentaient pas. Je ne crois pas que le football soit victime de manipulation financière. Ce serait exagéré.
Il y a le foot, il y a la Formule 1, il y a les Jeux Olympiques.
Bon, allez.
Allez, continuons parce que l'heure tourne. On va peut-être passer à un appel à l'action de Renan après un petit peu de musique et on conclura pendant
le
rendez-vous.
Tout de suite. Je vais faire l'action.
Oui. L'action et la musique donc, après. Allez, attendez.
On reste toujours à peu près dans la même région parce que tu étais au Brésil et moi je pars au Mexique.
Parce qu'on vous rappelle que nous écouter, c'est bien, mais nous aider à faire des actions, c'est encore mieux. Donc écoutez, celle qu'on vous propose.
Donc c'est une action urgente concernant le Mexique, donc c'est concernant des défenseurs qui ont été frappés et des migrants arrêtés. Donc des défenseurs des droits humains ont été blessés par des policiers et des membres de services d'immigration lors d'un coup de filet visant des étrangers en situation irrégulière dans la municipalité de Zapata, dans l'état de Tabasco, qui se trouve, comme tout le monde le sait, au sud-est du Mexique.
Oui.
Tabasco, c'est le nom d'une sauce aussi, non ?
Non. Ah oui, tout à fait.
La Zapata, sauce tabasco.
Zapata, c'était pas non plus un jeu,
non. Non, c'est le nom d'un monsieur.
Un monsieur. Oui, monsieur Zapata, oui. Oui,
c'est un révolutionnaire mexicain du début du XXe siècle, si je ne me trompe pas.
Et Tabasco, on a fait une campagne aussi pour le Mexique. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vois où c'est.
Ben, moi aussi, Tabasco, c'est vrai. Tu as raison.
Bon.
Donc, bon, vous voulez, pour les auditeurs, chercher un peu. Là, voilà.
Non, mais allez, raconte-nous l'action, parce que là, on est en train de se perdre dans divagation.
Non, mais bon. Il faut bien de temps en temps.
Oui, je sais.
Autrement, ça serait un peu triste. Donc, on ignore toujours où se trouvent les migrants, hommes et femmes et enfants qui ont été appréhendés. Parce que le 30 avril, Ruben Figueroa, le frère Thomas González et le frère Aurelio Montero Vázquez, des défenseurs des droits des migrants, ont signalé avoir été légèrement blessés par des représentants de l'Institut national des migrations, des membres de la police fédérale et des policiers de l'État de Tabasco au cours d'une opération visant à arrêter des migrants en situation irrégulière à Zapata. Selon certaines informations, des policiers ont frappé Ruben, Aurelio et Vázquez au visage. Thomas González a fait une lourde chute après avoir été poussé par des représentants. Ces événements sont survenus alors que Ruben Figueroa et Aurelio Vázquez essayaient d'apporter la nourriture et assistance humanitaire à un groupe de quelque 320 migrants en situation irrégulière, parmi lesquels se trouvaient des enfants et des femmes enceintes, qui avaient tenté de monter à bord d'un train de marchandises à destination du nord du pays. Donc, en fin de compte, il y a un appel à une action qui demande Amnesty, quoi, qui demande déjà aux autorités de révéler le lieu où se trouvent les 320 migrants arrêtés. Parce que pour l'instant, ils ont été arrêtés, mais bon, c'est pas...
Personne ne sait où ils sont.
Personne ne sait où ils sont. Donc, on demande la préoccupation qu'inspire le fait que les opérations lancées par l'INM. Donc, l'INM, je viens de donner le nom. Donc, c'est l'Institut... Très bonne question.
On peut pas t'aider, il y a que toi qui as la feuille, Renan. Là.
Ouais, mais c'est d'habitude j'ai fait en grand, mais là. Donc l'INM, j'y arrive. C'est
un institut.
Ouais, c'est un institut, oui.
Bah, il faut écrire vous allez avoir
Renan
l'action.
Renan, retrouve pas. Bon, continue, Renan, parce que leur tourne, leur tourne.
Ouais, bah, tu t'avoues. Voilà, maintenant,
voilà,
c'est de ma
écrivez,
faute.
Mais pas du tout. Envoyez un mail tout, et Renan vous envoie l'action.
Voilà, tout à fait. Donc, en fin de compte, et si vous êtes intéressé par l'action donc au Mexique, vous nous envoyez un mail à l'adresse que va nous dire soit Didier ou Edith.
Or, Didier. Didier, les adresses.
Vous
Didier.
Envoyez vos coordonnées à amnesty, amnesty.evreux@gmail.com et on vous renvoie l'action toute faite.
Tout à fait, l'action est toute faite, vous avez juste votre nom.
Oui.
Donc, musique.
Oui, musique, parce qu'effectivement, on va être un peu pressé comme toujours à la fin des émissions.
Alors, un top tap de musique.
C'est un morceau, il ne dure pas longtemps.
Ça va bien.
C'est parti.
Just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in. With you. Believe me, mama.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International Évreux. Donc, on vient d'écouter Paul McCartney, Every Night. Voilà, donc on va terminer l'émission, mais quelques informations encore. Et c'est Edith qui va vous parler de Myriam Yehia.
Yehia Ibrahim. Alors voilà. Là, vous allez tout de suite ouvrir votre ordi, s'il n'est pas déjà ouvert. Vous allez taper le site Amnesty International.
Amnesty.fr.
.fr, mais vous mettez Amnesty, les moteurs de recherche, ouais, ils connaissent. Et vous avez une pétition à aller signer pour cette femme.
Elle est sur la première page.
Voilà, cette femme qui est enceinte de 8 mois. Elle a été élevée dans la foi chrétienne orthodoxe, la religion de sa mère, parce que son père musulman était, semble-t-il, absent pendant son enfance. Elle a été arrêtée, accusée d'adultère en août 2013. Un membre de sa famille ayant affirmé qu'elle commettait l'adultère puisqu'elle s'était mariée avec un chrétien du Soudan du Sud. Et cela n'était pas valable.
Pour préciser que ça se passe au Soudan.
Au Soudan, voilà, ça se parle au Soudan. En février 2014, le tribunal l'a également inculpée d'apostasie. Alors, apostasie.
L'apostasie, c'est le fait d'être condamné à mort parce qu'on a renié sa religion.
Lorsque Myriam a déclaré être chrétienne et non musulmane, le tribunal l'a déclarée coupable de ses deux chefs d'inculpation le 11 mai 2014 et lui a laissé 3 jours pour renier sa foi. Ayant refusé, elle a été condamnée à mort pour apostasie et à 100 coups de fouet pour abus d'adultère. Donc, on a eu cet avis-là, cette problématique pour Myriam et le besoin de signature. Donc, depuis une semaine, il y a 620 000 personnes qui ont adressé un mail aux autorités.
En France, c'est 120 000 en France ou...
Amnesty, non, qui viennent d'Amnesty.
C'est au niveau, mondial. C'est au niveau
ça
mondial.
A été relayé par d'autres personnes.
Oui,
alors, Amnesty, la considère...
C'est relayé par toutes les sections d'Amnesty. Alors,
voilà, la considère comme une prisonnière d'opinion par rapport à, sa possibilité de choisir sa religion par rapport au fait qu'en plus, elle est enceinte, emprisonnée, qu'elle a des chaînes aux chevilles et qu'elle, comme pour les condamnés à mort au Soudan, on voit un peu comment ça se fonctionne au Soudan, ses avocats ont fait appel de sa condamnation. Si cet appel est rejeté, il compte explorer d'autres possibilités. Il faut absolument faire un forcing pour pouvoir avoir le maximum de signatures. Et Didier est arrivé avec une nouvelle.
Oui,
toute
chose. Alors, en préparant l'émission tout à l'heure, j'ai vu une info sur le site du Monde précisant que donc, notre amie Myriam Maya Ibrahim avait accouché hier en prison.
Avec des chaînes au pied.
Oui, on pense qu'elle est emprisonnée, enchaînée. Donc, elle a donné naissance à une petite fille hier. Donc, on maintient effectivement la demande d'Amnesty qui est très simple. Cette femme doit être immédiatement et inconditionnellement libérée.
Il faut faire maximum de signatures pour que le Soudan...
Et l'info du Monde conclut en disant la jeune femme mariée à un chrétien, ce que vient de dire Edith, est actuellement détenue avec son fils de 20 ans, selon Amnesty International.
De 20 mois, pardon. C'est un bébé.
20 mois. Selon Amnesty International, qui a demandé sa libération immédiate. Donc, effectivement, elle doit immédiatement ressortir de prison sans aucune considération.
Voilà, on termine sur ça et on compte sur vous.
Peut-être la date de la prochaine émission.
Oui, alors la date de la prochaine émission, c'est, tu l'avais noté, Renan, tout à l'heure. Bon, voilà.
C'est le 24 juin.
24 juin.
C'est juste que...
Ce sera juste avant le Festival Rock. Au Festival Rock, on vous retrouvera, comme tous les ans, on y sera pendant les 2 jours, bien sûr. On aura sûrement quelques surprises à vous proposer pendant le festival, mais c'est des surprises, on ne vous en parle pas. Et puis, on vous rappelle aussi l'action de samedi 31, le samedi qui vient, de nos amis du réseau Éducation Sans Frontières à la maison de quartier de notre ville, donc de 15h à 23h, c'est ça ?
Oui.
Je ne me trompe pas, c'est
tout à fait
ni dans les dates,
samedi
ni
prochain.
Dans les horaires, pour le soutien par rapport aux gens sans papier. Voilà, donc on vous rappelle ces actualités-là. D'ici là, n'hésitez pas à soutenir les actions d'Amnesty et puis pour les droits humains. Allez vous renseigner.
Surtout.
Et nous, on se retrouve dans un mois sur l'antenne.
Allez, au revoir à tous.
À bientôt.
Nation des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.